Seigneur, nous te remercions pour ce culte de ce matin et pour la force que tu me donnes pour prêcher ce message. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs qui sont venus l'écouter et de bénir ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Merci Seigneur Jésus de les fortifier corps, âme et esprit dans le nom béni de Jésus, mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Alors, nous allons avoir un baptême mardi. Ça va être la fête, c'est bien. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Eh bien, nous nous réjouissons ce matin d'être autour de la parole de Dieu, d'avoir avec nous Lucien et Charef encore. Et ils nous ont pas apporté du soleil d'Italie hein, aujourd'hui. Mais on va bien surveiller qu'ils ne partent pas avec le soleil mercredi. On va regarder. Ce matin, nous allons lire dans Doctrine et Alliance, chapitre 19. Vous avez tous maintenant sur Révélation Bible le livre de Mormon. Vous allez pouvoir donc le lire, mais je vous conseille, lisez-le déjà comme cela, et puis ensuite je vous conseille de vous le procurer, de l'acheter, c'est pas difficile, vous allez sur leur site, et puis vous pouvez le commander, c'est très bon, ils le font pas cher du tout, parce que ce qu'ils veulent, c'est que ça soit répandu au maximum. Alors, je lis au verset 19. Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Amen. C'est Jésus qui parle au sujet de la coupe qu'il devait boire, n'est-ce pas? Il est allé à la croix, il a bu la coupe et il a accompli tout ce qu'il devait pour les hommes. Quand on a une foi forte, Dieu nous demande d'avoir une foi encore plus forte. Vous avez remarqué ça? Quand nous avons une foi forte, nous acceptons de nous soumettre à ce que Dieu veut et aussi à son calendrier pour nous. Même si l'issue n'est pas exactement celle que nous espérions. Vous savez tous que en décembre, au début décembre 2015, j'ai appris, suite à une opération banale, que j'étais atteint d'un cancer. Alors pendant des mois, je me suis battu avec foi, je me suis battu avec mon épouse à mes côtés, qui était d'un grand secours, avec mes vrais frères et sœurs de la communauté, avec tous mes vrais amis qui priaient pour moi, qui m'encourageaient, qui m'écrivaient, etc. Et j'ai subi 33 séances de radiothérapie, je vous l'ai déjà dit, 15 jours complets, nuit et jour, de chimiothérapie, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu cela. Et grâce à Dieu, grâce aux prières, grâce à l'amour, j'ai vaincu cette maladie terrible. Amen. Gloire à Dieu, c'est bien. Et je peux dire une chose, maintenant que Dieu m'a donné une place pour me reposer avec la communauté, nous sommes dans un endroit magnifique ici, avec la piscine, avec le soleil et des voisins absolument charmants. Et bien maintenant que Dieu nous a donné donc cette place pour nous reposer avec tous nos frères et sœurs de la vraie communauté, et bien c'est que le plus important, mes frères et sœurs, au travers de cette épreuve, j'ai appris que le plus important, c'est pas de survivre, le plus important, c'est de ne pas reculer. Jésus n'a pas reculé devant la croix. Quand il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, c'était la coupe que Satan lui présentait au jardin pour qu'il meure là au jardin. Il n'a pas voulu boire cette coupe, il a voulu boire la coupe de la croix. Et il a été exaucé alors qu'il priait avec larmes. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Ne pas reculer, c'est le plus important. C'est plus important que de survivre. Vous savez, mes frères et sœurs, vous qui êtes peut-être au milieu d'une tourmente, au milieu d'une grande souffrance, qu'elle soit d'ordre financier, qu'elle soit d'ordre, ça soit peut-être, c'est peut-être votre santé, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un problème de couple, de famille, je ne sais pas ce que vous vivez. Je reçois des requêtes de prière et nous prions pour beaucoup de personnes qui vivent des choses, c'est invraisemblable. Les souffrances, toutes ces souffrances. Eh bien, boire à une coupe amère, on connaît, hein, ça arrive à tous les êtres humains. Vous qui passez par une grande souffrance, boire une coupe amère sans devenir amer, ça fait aussi partie de l'imitation de Jésus. Il y a un très beau livre qui s'appelle « L'imitation de Jésus ». Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous le procurer, c'est quelque chose de magnifique. C'était écrit par on ne sait pas qui, mais c'est très beau. Bon, il y a deux, trois passages un peu contestables, parce que voilà, c'est quand même... Mais c'est un livre magnifique. Il y a toujours des choses un peu contestables partout. Vous êtes d'accord avec moi? Même en moi, il y a des choses contestables. Moi, je trouve pas, mais bon. Non. Jésus ne s'est pas dérobé au jardin de Gethsémané. Il a bu la coupe qui lui était présentée, c'est-à-dire la croix. Il n'a pas essayé de fuir la croix. Il a dit, Père, que cette coupe-là, celle que le diable me présente là, au jardin, celle-là, je ne veux pas la boire, je ne veux pas mourir. Là, dans le jardin, il était en train de mourir. Il a dit, mais j'ai plus la force, mais que ta volonté soit faite. Alors Dieu a envoyé des anges pour le fortifier, et puis il est allé jusqu'au bout. Il a bu la coupe qui lui était présentée, et lui, là, il en est mort à la croix. Pour moi, je ne savais pas si je vivrais après avoir bu cette coupe amère. Je ne savais pas. Je me sentais faiblir, je me voyais maigrir, je ne savais pas si je survivrais, les médecins étaient positifs, mais ils mentent. Très souvent, je me rappelle de celui qui m'avait opéré de l'aorte il y a quelques années en arrière. Je lui avais dit, est-ce que ça fait mal? Il m'a dit, non, pas du tout. Et puis après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça fait mal? Et il m'a dit, vous m'avez dit que ça faisait pas mal. Il m'a dit, oui, mais je vous ai menti parce que sinon vous ne vous seriez pas fait opérer. En fait, ce qui fait mal, c'était pas tellement l'opération du cœur, mais c'était parce qu'il m'avait cassé des côtes. Alors ça fait mal quand il casse des côtes. Surtout moi, j'aime bien rire. Alors rire avec des côtes cassées, je vous dis pas, c'était terrible. Alors donc, voilà, je ne savais pas si je survivrais à ce cancer, à cette épreuve. Alors, j'ai compris, tout au long de cette épreuve, pas le premier jour, mais j'ai compris que survivre n'était pas la raison numéro un de mon combat. J'ai compris que la raison numéro un de ce combat était de ne pas reculer, de ne pas me dérober. Alors, dans sa grâce, Dieu m'a secouru. Des anges m'ont aidé, m'ont soutenu, des anges célestes, mais aussi des anges terrestres comme vous, c'est-à-dire des gens que Dieu m'a envoyés pour m'aider. Même, il y a eu un frère qui nous a fait un don pour nous aider financièrement, pensant voilà que ça devait être difficile, et c'est vrai que c'était un moment difficile, et c'était vraiment formidable. Et durant ces mois d'intense souffrance, j'ai pu continuer d'enseigner, de prêcher, de prier pour les autres. Tout ça, c'est sur Internet. Mais quand j'ai réécouté l'autre jour ces prédications, je m'aperçois que j'ai vraiment une voix un peu faiblarde. Hein. Mais bon, maintenant, Jésus a conduit son peuple, nous, la communauté, loin de ce lieu de souffrance où nous étions. Et il nous permet de nous reposer en attendant de pouvoir faire ce qu'il nous a dit que nous allions pouvoir faire, et nous nous réjouissons de son plan, nous savons ce que nous allons faire, simplement nous attendons, il nous donne un temps de repos pour que on puisse, quand on va avoir ce travail à faire, cette œuvre à faire, et bien qu'on soit en pleine forme. Là pour le moment, je suis fatigué physiquement encore à cause des chimios, vous savez c'est très fatigant, je parle de ça parce que je sais qu'il y a des gens qui passent par cette souffrance, et je sais que ils ont besoin aussi d'entendre qu'ils ne sont pas tout seuls. Un serviteur de Dieu aussi est attaqué. Hein. Il y en a beaucoup de pasteurs qui font croire que tout va bien. Non, tout va pas bien parce qu'on est pasteur, on a aussi nos problèmes. Eh bien, voilà, donc Dieu nous a mis à l'écart, mais nous savons ce que nous allons faire et nous aurons la force nécessaire pour le faire. C'est pourquoi pour le moment, il nous a mis dans un endroit, c'est un cocon où nous nous reposons. Alors, tout en nous reposant, nous continuons à aimer, à servir, à enseigner, à témoigner, à prêcher, toutes ces choses, à travailler. Alors, et au sein de cette épreuve, j'ai rencontré des gens courageux et vaillants qui se battent contre toutes sortes de maux. Et je voudrais leur dire ici, ou leur redire, le plus important n'est pas de survivre, mais de ne pas reculer. Il faut garder la foi. Que votre foi soit active, même si vous avez peu de force. Il faut que votre foi soit active. Il faut se battre. Dans le livre de Moïse, chapitre 15 et verset 5, il y a une chose merveilleuse que je voudrais vous lire. Ce beau texte nous montre Jésus-Christ se battant, non pour survivre, mais pour avancer, pour ne pas reculer. Je vous lis ça, Moïse 15, 5 à 8. Il est dit: et oh, qu'ils étaient beaux sur les montagnes, leurs pieds, et encore qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui publient encore la paix, et encore qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui, à l'avenir, publieront la paix. Non, excusez-moi, je me suis trompé, c'est 15, 5, 8. 15, 5, 8. Et ainsi la chair devenant assujettie à l'esprit, où le Fils au Père, étant un seul Dieu, souffre la tentation et ne cède pas à la tentation, mais souffre que son peuple se moque de lui et le flagelle, elle le chasse et le renie. Et après tout cela, après avoir accompli beaucoup de grands miracles parmi les enfants des hommes, il sera mené, oui, comme Esaïe l'a dit, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. De même, il n'a pas ouvert la bouche. Oui, de même, il sera mené, crucifié et mis à mort, la chair devenant assujettie à la mort, la volonté du Fils étant engloutie dans la volonté du Père. Et ainsi, Dieu rompt les liens de la mort, ayant acquis la victoire sur la mort, donnant au Fils le pouvoir d'intercéder pour tous les enfants des hommes. Voilà le grand but, que notre volonté soit engloutie dans la volonté de Dieu. Bien sûr que nous voulons vivre. Hier ou avant-hier, je parlais avec Charef, on était là dans le salon, et je dis, mais c'est quand même terrible, quand on est près de la mort, on se dit, mais pourquoi on est en train de se battre pour vivre ici? Quand on voit toutes les souffrances qu'il y a, toutes les difficultés, tous les combats, toutes les luttes, toutes les limitations, la vieillesse par-dessus, qui vient se mettre là en nous mettant des limites pas possibles, des humiliations, et quand on sait qu'avec le Seigneur ça va être merveilleux, qu'il va essuyer toute larme de nos yeux, que ça va être beau, mais pourquoi est-ce qu'on s'accroche? On s'accroche parce que quand même, bon, ben, on aime la vie, on aime nos frères et sœurs, on aime notre mari, notre femme, nos enfants, on aime bien quand même la vie, alors on s'accroche. Mais le grand but, c'est que notre volonté soit engloutie dans la volonté du Père. Je me rappelle qu'en 2012, Dieu m'avait inspiré une petite brochure que j'avais intitulée « Sa volonté ». Vous vous rappelez de ça? Elle était destinée à la communauté, donc elle n'a pas été publiée, peut-être qu'un jour on le fera. Mais durant ces mois de souffrance, cette brochure m'a beaucoup aidé. Et vous voyez, j'ai compris que Dieu nous prépare toujours avant que le diable ne se déchaîne. J'avais écrit ça avant l'épreuve. Et pendant l'épreuve, cette chose que j'avais écrite m'a aidé. Il nous prépare pour que nous ayons les armes nécessaires aux temps mauvais. Il sait qu'il va y avoir des temps mauvais. Et il nous prépare toujours. Il ne nous laisse pas n'importe comment. Mais encore faut-il être sensible et écouter sa voix. Quand le diagnostic est tombé, les deux médecins sont venus me voir, qui m'avaient opéré. « Monsieur Janton, vous avez un cancer. » Eh bien, il y a un sentiment d'échec qui m'est tombé sur la tête, parce qu'en effet, à cette époque-là, nous étions en train de passer une grande épreuve dans notre communauté, une division organisée par des gens qui avaient vécu près de 30 ans avec nous, de façon passive, mais enfin, ils avaient vécu avec nous. Et voilà qu'il semblait que j'allais mourir, laissant la victoire à ces gens, en quelque sorte, et laissant les fidèles de la communauté dans le désarroi. Alors, j'ai vite compris que cette pensée-là ne venait pas de Dieu, ni de moi-même d'ailleurs, mais qu'elle venait du diable. Alors j'ai réagi tout de suite. Cette idée, elle a fait que de souffler sur moi, même pas une minute, mais elle est venue quand même. Alors j'ai chassé cette pensée au nom de Jésus. Il faut être Il faut réagir, il ne faut pas se laisser couler, il ne faut pas reculer devant les agressions de l'ennemi. Et j'ai décidé de me battre pour ne pas reculer. Et tant pis si je mourais, l'important c'était de ne pas reculer devant cette épreuve. L'important c'était de l'affronter. Et j'ai commencé tout de suite là à l'affronter. Et alors les traitements ont commencé et ils me rendaient plus malade encore que la maladie elle-même. C'était quelque chose de terrible. En apparence, je me traînais, j'étais une vraie loque. Mais je savais une chose, je ne reculerai pas, je continuerai dans ma vocation. Et la communauté a organisé une cérémonie de scellement de mariage éternel pour Michou et moi. Tant pis si les dissidents s'en moquaient, méprisaient cela, ça nous est égal. Michou et moi, nous croyons que nous vivrons ensemble pour l'éternité, nous le désirons, vivre ensemble pour l'éternité. Je comprends que les dissidents n'aient pas envie de vivre avec leur bonne femme pour l'éternité. Je comprends. C'est peut-être pas très gentil ce que je dis là, mais je comprends. Mais nous, nous avons envie de vivre pour l'éternité ensemble. Et nous avons compris dans le livre de Mormon que nous pouvions sceller notre mariage pour l'éternité. Nous avons donc scellé cette union pour l'éternité. Alors que notre mariage avait été scellé que pour la vie ici-bas, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Le frère Clément Lecossec avait dit dans la prédication, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Eh bien non, moi je ne veux pas que la mort nous sépare, donc nous avons fait ce scellement de mariage pour l'éternité. Comme ça on était tranquille, si je mourais, bon, on restait tranquille pour l'éternité mariés. Et le temps passait, et Michou et moi, ainsi que la communauté fidèle, on se demandait qu'est-ce que Dieu avait prévu pour nous. Alors je m'accrochais aux paroles de la Bible qui affirment que Jésus est mort aussi bien pour mes péchés que pour mes maladies, mais il y avait toujours une petite voix qui me disait « mais il faut bien mourir de quelque chose, peut-être que c'est ce cancer qui va te tuer, qui va te faire partir de cette terre ». Moi je rejetais cette idée, mais elle revenait de temps en temps, et alors les frères et sœurs m'encourageaient. Et quelque chose est venu du ciel, une chose que j'ai reconnue comme venant du ciel, c'est « Michel, as-tu la foi pour ne pas guérir ?» Si c'est la volonté du Père que tu sois transféré maintenant par la mort dans le monde des esprits pour y poursuivre ton ministère d'évangéliste selon 1 Pierre 4, 6, est-ce que tu as la foi pour ne pas guérir? Michel, as-tu la foi pour te soumettre à la volonté de Dieu et ne pas guérir? Je dis oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que, voyez-vous, vouloir être guéri, c'est une tendance de l'homme naturel. Et je ne suis pas qu'un homme naturel. Par la nouvelle naissance, je suis plus, vous êtes plus qu'un homme naturel. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, j'ai lu un autre passage dans Mosiah 3, 9. Je vais vous le lire. C'est Mosiah 3, 19, pardon. Et voilà le texte. « Car l'homme naturel est ennemi de Dieu, et l'est depuis la chute d'Adam, et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit Saint et ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint que par l'expiation du Christ le Seigneur et ne devienne semblable à un enfant soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. » C'est magnifique ça, hein, je vous le relis. L'homme naturel est ennemi de Dieu, elle est depuis la chute d'Adam et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit. Si tu te rends aux persuasions de l'Esprit, si tu écoutes l'Esprit et que tu acceptes et que tu te soumets, à moins que tu ne te rendes aux persuasions de l'Esprit, que tu ne te dépouilles et que tu te dépouilles de l'homme naturel et que tu deviennes un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne deviennes semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. Ça, c'est quelque chose de formidable. Je dis oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous voyez, pour avoir la foi pour la guérison, Dieu me demandait si j'avais la foi pour ne pas guérir. C'était la première fois. Et quand j'ai dit oui, ben il m'a guéri. Quand j'ai dit oui, il m'a guéri. Et je vous transmets ce message ce matin. J'ai pris conscience d'un principe qui s'applique à tous les véritables disciples dévoués de Jésus-Christ. Une foi forte au Seigneur consiste à accepter de se soumettre à sa volonté et à son calendrier à notre égard, même si l'issue n'est pas celle que nous espérons, que nous voulions. Bien sûr que je voulais être guéri, mais le plus important était d'être soumis à la volonté de Dieu. Dans Omni, chapitre 1, verset 26, il est dit « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je voudrais que vous veniez au Christ, qui est le Saint d'Israël, et preniez part à son salut et au pouvoir de sa rédemption. Oui, venez à lui et offrez-lui votre âme tout entière en offrande, et continuez dans le jeûne et la prière, et persévérez jusqu'à la fin, et comme le Seigneur vit, vous serez sauvés. » Et dans Luc 22, 42, il est dit « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Vous voyez, ces choses vont ensemble. Ces choses vont ensemble. Elles se complètent. Elles se parfaitent. Elles sont parfaites, mais elles deviennent encore plus parfaites quand elles sont mises ensemble. Vous voyez, quand Jésus dit « Cherchez, frappez, demandez. » Ça exige que nous demandions, que nous cherchions, que nous frappions afin de recevoir la connaissance, la compréhension de ce que Dieu veut. Pas simplement ce que nous voulons. Nous devons avoir la foi pour que notre volonté soit engloutie dans la volonté du Père. C'est ça le summum de la foi. C'est pas d'être guéri. Moi, je sais ce que c'est que d'avoir la foi pour être guéri. J'ai été guéri de nombreuses maladies. On devait m'amputer le pied gauche à cause de la gangrène. J'ai été guéri de toutes sortes de choses. Dans ma vie, j'ai prié pour des milliers de personnes qui ont été guéries. Je sais ce que c'est que la foi pour la guérison. Mais je ne savais pas ce que c'était que la foi pour ne pas être guéri. Et j'ai appris. Ça m'était étranger. Mes frères et sœurs, il est préférable de ne pas se dérober à sa volonté que de survivre. Il est préférable de ne pas se dérober à sa volonté plutôt que de survivre. Au fond de moi, je savais quand même que c'était vrai. Vous savez, notre esprit sait toutes ces choses. C'est notre âme qui a besoin d'apprendre. Au fond de moi, je savais que ces choses étaient vraies et je savais que Dieu est aux commandes, que de toute façon, il fait ce qu'il veut. Mais c'était juste la première fois que je me trouvais en face de ma propre mort. Pensez-y, ça fait la différence. Notre foi ne doit pas être unidimensionnelle. Nous avons le droit d'avoir la foi pour guérir. Dieu nous donne cette foi, ce droit-là. J'ai cette sorte de foi-là. Alors, ayant cette sorte de foi-là, Dieu me demande plus. Et il se peut qu'il te demande aujourd'hui à toi plus. Vous voyez, même si nous avons une grande foi, toutes les montagnes ne vont pas être déplacées. Même si nous avons une très grande foi, tous les malades ne vont pas être guéris. Tant que nous sommes dans cette condition mortelle, ben beaucoup mourront. C'est une lapalissade. Et gloire à Dieu, je suis guéri. Ce cancer a disparu. Et je sais que Jésus guérit, je le sais depuis le premier jour de ma conversion, depuis le 1er juin 68, je le sais avec une immense, une grande certitude. Parce que non seulement j'ai lu, mais j'ai vu Jésus guérir ce soir-là. Et par la suite, encore et encore et encore. Les apôtres ont appris par expérience que Jésus s'inquiète de nos conditions périlleuses. Dans la barque, par exemple, vous vous rappelez, ils ont crié « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions ?» On pourrait dire « Ne t'inquiètes-tu pas que j'ai le cancer ?» Ne t'inquiètes-tu pas que les dissidents vont rigoler parce que je vais mourir ? C'est un petit peu ce que Moïse a dit aussi à Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens si tu permets qu'on meure tous dans le désert ? Et Jésus donne la réponse, il dit, mais pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi ? Et il a étendu sa main et il a calmé les eaux. Croyez-vous que Jésus n'est pas concerné par votre souffrance ? Mais bien sûr qu'il est concerné par votre souffrance. Et croyez-vous qu'il a vraiment calmé les eaux ? Ça, c'est une première des choses. La première des choses. Croyez-vous qu'il peut vous guérir ? Croyez-vous qu'il veut vous guérir ? Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous croyez réellement qu'il peut vous guérir ? Oui. Alors, il y a le grand problème qu'on rencontre, que beaucoup rencontrent et que j'ai rencontré, c'est la nécessité de croire que Dieu peut les guérir avec une volonté inéluctable. Mais comment concilier la nécessité de ma foi en Christ qui peut me guérir avec sa volonté qui est peut-être autre ? Ne voyez pas ça comme deux choses distinctes. C'est là où on se trompe. Il ne faut pas voir ça comme deux choses distinctes, ni comme deux choses qui se contredisent. Non. Moïse, il a plaidé comme il a pu avec Dieu en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens ? Moi aussi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les dissidents ? Ils vont rire quand ils vont voir apprendre que j'ai le cancer. Ils vont se moquer. Ils vont dire, voyez, c'est Dieu qui l'a tué. C'est parce qu'il a résisté au Saint-Esprit de prophétie. Et j'ai crié à Dieu. Mais en fait, Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Et moi, je devais apprendre ce qu'il allait faire avec le temps. Mais Dieu n'a pas changé son plan parce que Moïse lui a dit ça. Comme Dieu n'a pas changé son plan parce que je lui ai dit ça. Simplement, ce sont des réactions humaines que Dieu nous permet d'avoir aussi. Alors, il ne faut pas voir ces deux choses, les deux choses comme des choses qui se contredisent entre la volonté de Dieu de guérir les malades et puis des fois la volonté de Dieu de nous reprendre. Jésus a dit au sujet de Lazare, cette maladie n'est pas venue pour la mort. Comme quoi, il y a bien des maladies qui viennent pour la mort. Ben, voilà. Permettez à ces deux concepts d'exister, de coexister en vous foutant de ce que les gens pensent. Facile à dire une fois que c'est fini. Hein. Centrez votre foi sur Jésus-Christ qui a tout pouvoir et en sa volonté. Mais faites tout cela dans la paix. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez dans la paix. Soyez dans la gratitude et non dans l'inquiétude à ce sujet. C'est là que je dis, ne voyez pas ça comme deux choses distinctes. Ne voyez pas ça comme deux choses qui se contredisent. Si vous voyez ça comme deux choses qui se contredisent, vous n'êtes pas dans la paix. Vous êtes dans la paix quand vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, ma volonté, c'est que je guérisse, mais toi, ta volonté, c'est que ta volonté soit faite. Je sais que tu peux me guérir, mais si tu ne veux pas me guérir, eh bien, tant pis. Tant mieux même. Être dans la paix. La justice, ce qui est juste, c'est que la foi joue un rôle primordial pour déplacer les montagnes, si déplacer les montagnes accomplissent les desseins de Dieu. C'est tout. C'est tout. Et c'est la même chose pour votre souffrance. Votre souffrance, votre foi dans la souffrance joue un rôle primordial pour déplacer cette souffrance, pour ôter cette souffrance, si cela accomplit le dessein de Dieu. Mais peut-être que Dieu veut accomplir son dessein autrement. Comment ? Que la volonté de Dieu se fasse, c'est pas facile à dire. Si Jésus répondait à toutes nos prières selon notre volonté, où serait le besoin d'avoir la foi ? Et comment peut-on avoir la foi s'il n'y a pas ces deux possibilités distinctes que nous ne devons plus voir comme des choses distinctes ? Il y a beaucoup de choses qui semblent se contredire dans la Bible. Par exemple, je prends un exemple. Je vais vers Olivier. Ah, je suis prêt, Olivier. Une gifle sur la joue droite. Qu'est-ce que dit la Bible ? Dans la joue gauche. Une gifle sur la joue gauche. Et encore. Et encore. Et là, et encore. Maintenant, regardons qu'est-ce que Jésus a fait. Quand le bonhomme là-bas au tribunal lui a foutu une baffe, il lui a pas tendu la joue gauche ni la joue droite, il a argumenté, il a dit, hey, oh, pourquoi tu me frappes? Et il a commencé à argumenter. Vous voyez? Alors arrêtez d'être bêtes. Soyez spirituels. Soyez spirituels. Ayez de l'amour pour Dieu, ayez de l'amour pour les autres, ayez de l'amour pour vous-même. Et arrêtez de différencier ces deux choses. Entre la foi qui vous permet d'être délivré des maladies ou des problèmes ou des difficultés et la foi que Dieu fasse comme il veut. Ce que nous vivons ici-bas est nécessaire. Dieu attend que nous affrontions les adversités temporaires dans notre condition mortelle avec son aide afin qu'on puisse apprendre ce qui est nécessaire et pour que nous puissions devenir à terme ce que nous devons devenir pour l'éternité. Je voulais vous lire encore un texte dans Néphie, dans le deuxième livre de Néphie, au chapitre 31, versets 19-20. Il est dit « Et maintenant, mes frères bien-aimés, je vous demande si tout est fait lorsque vous êtes entrés dans ce sentier étroit et resserré. Voici, je vous dis que non, car vous n'êtes arrivé jusque-là que par la parole du Christ avec une foi ferme en lui, vous reposant entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver. C'est pourquoi vous devez marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole de Christ et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. » Mais on n'a pas tout fait parce qu'on est devenu chrétien. Ça, c'est juste le début. Maintenant, il ne faut pas rester chrétien comme on était quand on s'est converti. Et quand vous avez une foi forte, au point de guérir les malades, au point de ressusciter les morts, et ça nous est arrivé ici dans la communauté, eh bien, Dieu nous demande d'avoir une foi plus forte encore. Et comment peut-il la développer sinon par le moyen de l'épreuve? Vous voyez, notre passage ici-bas, ce n'est pas juste une question de vivre ou de mourir. La question est, et ça sera le titre de ma prédication, d'apprendre, de vivre et de devenir. D'apprendre, de vivre et de devenir. C'est l'histoire de chacun de vous. Nous ne connaissons pas la signification de tout, mais je sais, et je pense que vous pouvez dire moi aussi je sais avec certitude que nous sommes des fils et des filles de notre Père céleste aimant. Je sais que le Père est l'auteur du plan du salut. Je sais que Jésus est notre Sauveur et notre Rédempteur. Je sais que Jésus a mis en œuvre le plan du Père par l'expiation. Je sais que Jésus a été blessé, meurtri, brisé et qu'il peut porter secours à son peuple. Je sais maintenant qu'une des plus grandes bénédictions de la condition mortelle consiste à ne pas nous dérober, à ne pas reculer, mais à permettre que notre volonté soit engloutie dans la volonté du Père. Et pour finir ce matin, je vais dire encore, je sais que si vous avancez résolument dans la vie, avec une ferme foi en Jésus-Christ, vous aurez la capacité de ne pas vous dérober. Amen. Amen. J'espère que ça vous fait du bien. Je prie Dieu que cela vous fortifie encore davantage et que vous sachiez faire la part des choses et que vous ne dissociez pas les deux choses. Il y a la volonté de Dieu qui a accompli en Jésus-Christ. Il a porté tous vos péchés, toutes vos maladies, mais il a sa volonté aussi qui peut être autre. Mais ne dissociez pas les deux. Nous n'avons qu'un seul Dieu qui fait ce qu'il veut. Et nous devons accepter qu'il fasse ce qu'il veut. Mais il ne nous est jamais dit d'arrêter de prier. Paul, il a arrêté de prier au sujet de sa maladie quand Dieu lui a dit « Arrête maintenant, ma grâce te suffit ». Tant que Dieu vous dit pas « Ma grâce te suffit, arrête de prier », continuez à prier, continuez à avoir la foi jusqu'au bout. Et même si vous êtes au point de rendre votre dernier souffle et qu'un frère et une sœur est à côté de vous, dites-lui une fois que j'aurai crevé, eh bien, prie pour que je ressuscite. On a encore cette possibilité, vous voyez ? Faut pas dire quand il y a temps, faut pas dire tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Même quand on est mort, il y a encore de l'espoir, on peut ressusciter. Vous voyez, notre foi, elle est absolue. Mais elle peut être encore plus grande. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Amen.